D'accord. Alors, la perception du rapport entre l'individu et le travail par les sociologues du travail a longtemps fluctué, au cours du temps, donc passant d'une analyse en termes d'aliénation à une analyse en termes d'action et d'autonomie dans le travail. Aujourd'hui, c'est à travers le concept d'identité que les sociologues appréhendent les modes de construction de soi dans le travail. Pouvez-vous revenir sur ces grandes étapes et dégager les enjeux contemporains de la notion d'identité au travail?
D'accord. Alors, comme on l'avait évoqué précédemment, les premiers mots qui sont venus à la bouche des sociologues du travail pour dire les difficultés, les souffrances, et j'utilise même le terme qui à l'époque, dans les années 50-60, revenait souvent sur la plume des sociologues, la tristesse au travail. Hein. Le terme nous paraît suranné aujourd'hui, mais dans les grandes enquêtes des années 50-60, on parlait de tristesse au travail pour dire la difficulté à vivre son travail au quotidien d'une grande partie des travailleurs, que ce soit les hommes de la grande industrie, mais aussi des femmes dans la confection, le textile, etc. Alors, le terme d'aliénation s'est imposé assez vite, dans les années 50 en tous les cas, pour beaucoup de sociologues, pour dire ces difficultés-là, et pour dire plus exactement la perte de sens qui était liée à la situation au travail. Alors, perte de sens au sens où Marx le définit hein, véritablement dans ses manuscrits de 1844, qui, à mon avis, reste quand même un des morceaux de l'œuvre de Marx qui reste le plus intéressant, le plus percutant pour nous aider à penser ce qu'est le travail et l'aliénation au travail. Alors derrière le perte de sens, très concrètement, on voit quoi? On voit les effets délétères de la division du travail. Le fait de spécialiser à outrance dans l'organisation du travail fait que les gens ne se reconnaissent pas dans le produit de ce qu'ils peuvent fabriquer. Et si vous passez votre temps à visser une roue, au fond la voiture qui sort en bout de chaîne, vous y reconnaissez pas le produit de votre engagement. De la même manière, perte de sens où le travail devient plus un moyen pour gagner sa vie qu'une finalité en soi pour se construire pleinement en tant qu'individu et trouver des plaisirs, des résistances qui vous construisent et vous forgent des capacités, etc. Et puis perte de sens, pour suivre une autre intuition de Marx, c'est le fait que on fait éclater la communauté des travailleurs en les mettant en concurrence sur le marché du travail. Et donc, si on met les gens en situation de concurrence sur le marché du travail, l'être générique du travailleur ou des travailleurs qui prendrait la forme d'une comité de travail unie n'existe plus. Donc il y a toute une série comme ça de diagnostics hein, qui sont posés très tôt, dès les années 50, pour justifier le fait qu'on raisonne en termes d'aliénation. Travailler, c'est perdre du sens, quoi, hein. Alors, il y a eu un gros débat dans les années 50, plutôt 60, pour dire est-ce que finalement le terme d'aliénation est la bonne entrée pour diagnostiquer le monde du travail. Et en France, on a eu des débats extrêmement serrés et sévères qu'on a oubliés aujourd'hui, qui sont traduits notamment par un numéro spécial de sociologie du travail, je crois, de 67, où on est revenu hein, sur la notion d'aliénation pour mieux l'enterrer, en disant il y a un vrai problème sociologique à l'usage de la notion d'aliénation pour penser le rapport entre l'individu et le travail, c'est que la notion d'aliénation suppose l'existence, pour dire vite, d'une espèce de nature humaine, et cette nature humaine serait altérée par le mode d'organisation du travail. Et réfléchir en termes de nature humaine, c'est bien évidemment asociologique par définition. Donc on a abandonné progressivement la notion d'aliénation du travail, et à partir des années 60, 70, etc., les sociologues du travail ont été sur d'autres terrains, peut-être moins marqués de la patte de Marx, en tout cas du jeune Marx. Avec cette idée qu'on pouvait, en regardant finement l'organisation du travail, découvrir la force de l'autonomie dans le travail dont étaient capables les individus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement une espèce comment dire, de chape de plomb qui s'abattait hein, sur les individus dans l'organisation du travail, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, enfin pas de plus en plus, mais on s'aperçoit de plus en plus que au travail, les salariés ont des capacités de résistance. Ils peuvent détourner les règles qui leur sont imposée. Ça se traduit tout simplement par toute une série de pratiques que l'on connaît bien. Par exemple, le sabotage, ça peut être la perruque, le fait qu'on va passer une partie de son temps à fabriquer des petits objets, des porte-clés, voire même des armes à feu sur le lieu de son travail, par le fait qu'on va prendre des pauses sauvages, qu'on va anticiper le tempo qui nous est donné officiellement, etc., et qu'on va pouvoir faire des pauses, etc. Donc on s'aperçoit progressivement qu'il y a des espèces de ports, des ports d'autonomie, hein, des espaces de liberté qui permettent aux travailleurs de résister. Donc c'est pas simplement une aliénation brute, etc. C'est un jeu beaucoup plus compliqué entre l'imposition d'une règle et la capacité à esquiver la règle. Et j'irais même plus, on s'aperçoit progressivement que non seulement dans le travail, les individus existent, s'affirment par ces stratégies de résistance, mais que plus encore, c'est le détournement de la règle, le non-respect de la règle officielle, qui est la condition de fonctionnement de l'organisation du travail. Donc on va plus loin, hein, c'est-à-dire que si les individus respectaient les règles à la lettre, eh bien l'entreprise ne fonctionnerait pas. Et donc il y a une espèce comment dire, de retournement du raisonnement, c'est précisément parce qu'il y a déviance permanente dans le travail que l'entreprise peut fonctionner. Hein, ce n'est pas simplement une forme de résistance. Je prendrai juste pour exemple un exemple bien connu qui est celui de la grève du zèle. Et notamment, vous savez, quand les contrôleurs aériens, pendant très longtemps, je ne sais plus quand ça s'est arrêté, cette affaire-là, mais voulaient manifester leur mécontentement, ils appliquaient à la règle. À la lettre, pardon, les règles qui leur étaient imposées pour gérer l'arrivée et le départ des avions, sachant que en appliquant à la règle, eh ben, ça ralentissait fortement le trafic, parce que et ça créait des tas de perturbations, parce que la règle conjuguait des contradictions telles que ben, appliquer les règles à la lettre dans la gestion du trafic aérien, ça perturbait le bon fonctionnement du trafic aérien. Voilà. Donc, il y a eu tout ce moment-là. Hein, qui fait qu'on découvre finalement, à partir des années 70 et 80, à l'occasion notamment de la reconfiguration de l'organisation du travail, de la découverte de l'importance de l'industrie du process, etc., on s'aperçoit que finalement, sans détournement des règles, sans affirmation du salarié en tant que singularité qui va se défaire, hein, des normes qui lui est imposée, eh bien, le travail, ce n'est pas possible, quoi. Alors, il y a eu un autre moment, et on arrive là à ce que vous évoquiez en termes d'identité, qui commence à voir le jour dans les années 70 et qui prend vraiment corps et sens dans les années 80 et 90. Alors, l'identité, pourquoi? Ben, le premier à avoir tiré le fil de la réflexion par l'identité, c'est Renaud Saint-Saulieu, hein, dans son grand ouvrage sur l'identité au travail. Alors, pour bien comprendre pourquoi Renaud Saint-Saulieu nous invite à réfléchir en termes d'identité, il faut avoir plusieurs éléments en tête. Première chose, c'est que Renaud Saint-Saulieu vient d'une sociologie qui est une sociologie de type crozierienne, donc Michel Crozier, qui réfléchit avant tout les relations de travail en termes de relations de pouvoir, donc ça on le sait tous, et pour Saint-Saulieu, ce schéma est intéressant mais insuffisant pour comprendre la réalité du travail, et Saint-Saulieu estimait que la culture, au sens large du terme, comptait autant que le pouvoir pour pouvoir réfléchir sur les relations de travail. Donc injecter la dimension culturelle. Et derrière la dimension culturelle, la façon dont les individus se construisent en tant qu'identité, en tant qu'individu, avec une identité singulière ou collective, ça c'était important. Deuxième chose, c'est que Saint-Saulieu est le premier à revenir sur Hegel. C'est-à-dire que le schéma que propose Saint-Saulieu dans l'identité au travail est fondamentalement une tentative d'appliquer la dialectique du maître et du valet au monde de l'entreprise, en disant finalement l'identité, c'est pas une identité strictement qui appartient par essence à un individu. L'identité, c'est une construction sociale, et cette construction sociale, elle est le fruit d'une interaction, de lutte entre des individus et notamment entre un travailleur et un employé. Donc on voit un travailleur, pardon, et un employeur. Donc on voit l'idée là qui émerge, c'est que l'identité, c'est fondamentalement le produit d'interactions sociales et pas simplement une substance, hein, qui serait immanente à une subjectivité que porterait chacun d'entre nous. Alors, ça a permis notamment à Sassolieu de rentrer dans le débat, je dirais presque à pas feutrer, notamment avec tous ceux qui raisonnaient en termes de conscience ouvrière, et donc avec toute une tradition marxiste qui avait largement irrigué la sociologie du travail à travers d'abord la notion d'aliénation, et puis après à travers la notion de résistance au travail, hein, telle que je viens de les évoquer. Ce que nous montre Sassolieu, c'est que il existe non pas une conscience ouvrière, mais il existe au fond des identités au travail. Et donc il va faire éclater, hein, l'idée de conscience ouvrière, qu'elle soit dominée ou complètement autonome, et il va mettre en évidence le fait que il y a des identités au travail. Alors ça c'est maintenant bien connu, hein, identité de fusion, de négociation, de retrait, etc. Et ce que montre fondamentalement Sassolieu dans son premier ouvrage, c'est que les identités se construisent au travail avant tout en référence à des appartenances professionnelles. Hein, c'est-à-dire que les identités, il y a des identités typiques d'OS, il y a des identités typiques de techniciens, etc. Chez les cadres, c'est plus compliqué, mais l'appartenance statutaire, la profession, tout ça, c'est l'élément qui est largement dominant dans la construction des identités, même s'il ne néglige pas le fait que les immigrés, les femmes, ont des spécificités qui vont avoir des impacts sur la construction de leur identité. Alors, la conséquence de ça, et c'est une conséquence qui n'est pas mineure, c'est qu'en distinguant plusieurs registres identitaires, Sassolieu estime qu'il y a des marges de manœuvre possibles, et notamment qui engage non seulement les gestionnaires des entreprises, mais aussi les sociologues, pour faire évoluer les identités des gens. Donc, c'est-à-dire on peut agir sur l'entreprise pour améliorer les conditions de travail des individus et surtout faire bouger leur identité. Et c'est pourquoi Renaud Sassolieu, notamment, accordait tellement d'importance à la formation, en disant la formation, c'est un levier pour faire bouger, hein, les identités au travail. Et c'est pourquoi Sassolieu a été un des pionniers de ce qu'on a appelé la sociologie de l'entreprise en France, et qui, à un moment donné, a été, comment dire, perçu par toute une tradition marxiste ou néo-marxiste en sociologie du travail comme une espèce de dévoiement, hein, de la position sociale critique qu'aurait dû avoir le sociologue vis-à-vis de l'entreprise. Donc, premier moment important dans la sociologie de l'identité, c'est vraiment Renaud Sassolieu avec les enjeux que je viens de souligner. Alors, il y a eu un deuxième moment qui apparaît un peu plus tardivement, à partir des années 80 et surtout 90, porté typiquement par Claude Dubard, qui a consisté à emprunter non plus à la tradition hégélienne, mais plutôt à la tradition interactionniste, et à faire jouer les schémas de Becker, de Goffman, etc., pour les appliquer au monde du travail. Alors fondamentalement, mais on retrouve une idée qui était déjà hégélienne, c'est que l'identité n'est pas une propriété immanente à chaque individu, qu'elle n'est pas substantielle, mais c'est une forme de construction sociale, comme on dit de manière un peu trop rapide parfois, qui est le produit d'interaction. Hein. Alors, pourquoi d'un seul coup, dans les années 80-90, on redécouvre l'identité qui est un concept aussi largement travaillé par la tradition interactionniste? Ben, je pense que fondamentalement, on s'en saisit parce que les choses changent, notamment du point de vue de l'organisation du travail, mais aussi du marché du travail. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas comprendre le rapport des salariés et plus généralement des travailleurs à leur travail, à leur emploi, si on ne raisonne pas en termes de trajectoire. Et donc je crois que c'est vraiment un des grands basculements qui commence à s'organiser dans les années 80-90 dans la compréhension fine de ce qu'est le travail et de ce qu'est l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus comprendre le travail si on reste sur une sociologie d'atelier, si on se contente d'analyser les gestes du travailleur, si, bref, on fait une sociologie de la situation au travail. Et que c'est important de comprendre les trajectoires des immigrés qui sont venus avec des intentions bien précises, qui ont pu faire après leur deuil d'un retour au pays. Si on ne comprend pas que, en dehors du travail, il y a toute une série d'éléments qui organisent la vie sociale Et donc dans le cas des femmes typiquement, si on ne comprend pas le fait que la trajectoire linéaire ancienne, école, entreprise, retraite ne fonctionne plus, etc. Donc il faut sortir de l'atelier et raisonner en termes de trajectoire. Et raisonner en termes de trajectoire, ça veut dire que eh bien, on ne peut comprendre le travail qu'à partir des représentations que les salariés se font de leur trajectoire ancienne et surtout de ce que pourrait être pour eux leur avenir professionnel. Et ça se construit en confrontation, en articulation avec ce que peut proposer un autrui, j'ose pas parler d'autrui généralisé, mais un autrui qui est l'employeur, l'entreprise. Hein. Ce que peut proposer l'entreprise en termes de carrière professionnelle à un moment donné ne va pas forcément être en articulation étroite avec les représentations que se fait le salarié. Donc dans certains cas oui, dans certains cas non, et en travaillant à cette interaction-là, à ces articulations qui peuvent être cohérentes ou au contraire contradictoires, on peut faire émerger toute une série d'identités au travail. C'est ce qu'avait fait Claude Dubard, en montrant qu'il y a des cas où finalement les attentes réciproques se confortent. On voit ça typiquement dans le cas des grandes entreprises avec des marchés internes, etc., où les gens sont investis dans leur travail, où en contrepartie, les entreprises leur proposent des formations qui vont les faire évoluer, etc. Et des cas où, à l'inverse, la formation qui est proposée aux salariés est vécue comme une forme de déqualification parce que on n'attend pas du tout ça, c'est d'autres projets que l'on a, etc. Donc voilà, hein. Donc c'est vraiment parce qu'on raisonne en termes de trajectoire et d'attente réciproque que d'un seul coup, la question des identités vient sur le tapis. Alors, le dernier élément qui apparaît aujourd'hui, c'est un diagnostic au fond de crise des identités. C'est d'ailleurs le dernier livre, ou l'un des derniers livres plus exactement de Claude Dubard qui était consacré à ça et qui rentre fortement en résonance avec toute une série de travaux consacrés aux formes contemporaines de l'individuation dans ses variantes multiples, Kaufmann, Singly, etc. Alors, dans le monde du travail, qu'est-ce que ça veut dire la crise des identités et comment le débat se repositionne-t-il aujourd'hui? La crise des identités, je crois que fondamentalement, elle est à lier à une série de transformations structurelles. Donc, la première, je l'ai dit à l'instant, c'est que les cycles linéaires, enfin l'évolution linéaire, école, entreprise, retraite, ben, ça marche de moins en moins. On sait bien dès le lycée et à l'université, les individus ben, mettent déjà un pas dans le monde du travail, que les allers-retours entre école et formation sont de plus en plus fréquents, etc. C'est l'épuisement du modèle du marché interne à la française, qui fait que ben, on arrive en tous les cas dans l'entreprise avec une certitude qui est de plus en plus ébranlée quant à son devenir à long terme dans l'entreprise et qu'on se persuade qu'on ne fera plus forcément carrière toute sa vie durant dans la même entreprise comme c'était le cas précédemment, etc. C'est le fait que les modèles de gestion du travail privé-public se contamine de manière de plus en plus forte. C'est le fait que il y a des tensions nouvelles qui apparaissent entre univers du travail et univers du hors-travail, et que le thème de la conciliation du travail hors-travail est aujourd'hui un thème majeur, en raison notamment de l'accès toujours constant des femmes au marché du travail, etc. Donc il y a toute une série, hein, d'éléments qui ont ébranlé les identités professionnelles anciennes. Et notamment le fait que on pouvait se vivre comme un homme qualifié de la grande industrie avec une trajectoire certaine, le fait que son identité passe avant tout par le travail, et donc la question de la conciliation fait que se pose la question de savoir comment articuler de façon optimale les différents sociaux et de se construire comme individu en équilibrant le temps du travail, le temps de l'engagement politique, le temps de la vie familiale, etc. Hein. Donc on a tout ça qui est au cœur de la réflexion. Et voilà. Alors, du coup, moi je pense, je l'ai peu encore envisagé dans cet ouvrage-là, mais que on est en train de rebondir maintenant en passant de la question de l'identité à la question de la reconnaissance. Hein, je l'avais évoqué ça précédemment dans notre discussion. Les travaux de Axel Honneth, donc en Allemagne, et qui font tache d'huile aujourd'hui en France, invitent à essayer de réfléchir ce qui se joue dans le monde du travail, non plus simplement en termes d'identité, mais fondamentalement en termes de reconnaissance. C'est-à-dire, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que il y a une forme de soif de reconnaissance de la part de salariés, parce qu'on leur demande de s'investir de façon extrêmement forte, subjective, intensive dans le travail, mais s'il n'y a pas les reconnaissances de différentes sortes, hein, que ce soit des reconnaissances monétaires, mais aussi simplement des reconnaissances symboliques, eh bien à ce moment-là, on est dans le registre de la souffrance, avec ce que ça peut signifier parfois, hein, c'est-à-dire des effets délétères majeurs, comme les vagues de suicide qu'on a pu voir apparaître dans certaines entreprises récemment, quoi. Voilà, donc aliénation. Reconnaissance de l'implication et de l'autonomie dans le travail, identité, reconnaissance, voilà quelques grandes étapes, à mon avis, hein, qui ont jalonné à la fois les transformations du monde du travail et la façon de les thématiser en sociologie du travail.